Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
Une. Ocha s'inquiète du nombre toujours croissant des nouveaux déplacés qui affluent à Rutshuru centre et Kiwanja au nord Kivu à la suite des combats FARDC et M23 dans le Rutshuru. Au moins 17 000 nouveaux déplacés sont arrivés depuis mars dernier. La société civile supplie le gouvernement de venir en aide à ces déplacés qui souffrent énormément, dit-elle. Les reliques de Lumumba attendues à Kisangani ce vendredi. Dans ce journal, le témoignage du secrétaire provincial du parti politique MNC de Lumumba à Kisangani, le chef-lieu de la Tshopo où le tout premier ministre du Congo a commencé sa carrière politique, Célestin Kangankolo, est âgé aujourd'hui de 83 ans. L'invité de ce matin, Joseph Inganji, responsable du bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, dans la stratégie de sortie de la MONUSCO au Tanganyika, les agences du système des Nations Unies et les humanitaires mettent en place des stratégies de développement de la province. Madame, Messieurs, bonjour. Commençons par le Nord Kivu. Des nouveaux déplacés en provenance des zones de combat entre FARDC et rebelles du M23 continuent à affluer dans les agglomérations de Rutshuru centre et la cité de Kiwanja. Les humanitaires parlent d'au moins 17 000 nouvelles personnes déplacées arrivées depuis mars dernier, logées dans des écoles, stades et autres espaces collectifs, d'autres dans des familles d'accueil. Ces personnes vulnérables vivent dans des conditions alimentaires et sanitaires difficiles d'après les mêmes sources et la persistance des violences dans le territoire de Rutshuru ne permet pas aux humanitaires d'assister ces déplacés car leurs interventions sont maintes fois entravées. De son côté, la société civile supplie le gouvernement de voler au secours de ces déplacés qui souffrent énormément, dit-elle. Denise Lukesso nous fait le point.
Parmi les nouveaux arrivés, environ 3000 personnes vivent dans une forte promiscuité au stade de Rugabo à Rutshuru centre selon Ocha. Les 17 abris communautaires construits par les ACR deviennent insuffisants, toujours selon Ocha qui déplore que les ressources financières et l'accès humanitaire soient limités. Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile de Rutshuru, dit pour sa part craindre l'apparition des maladies diverses au regard des conditions difficiles de se déplacer. Il appelle à la solidarité nationale et international.
Ils sont en train d'errer dans la cité, en train de quémander. Je peux vous rassurer que si rien ne fait, en tout cas très bientôt, on va assister à des décès suite aux faim, même des maladies hydriques. Tout ça, c'est vraiment des enjeux qui courent, se déplacer, qui semblent être négligés. Que ce soit du côté du gouvernement, même des humanitaires, ils n'arrivent vraiment pas pour secourir, se déplacer en danger. Donc le gouvernement est en tout cas le premier parent qui doit venir assister ces populations.
Depuis mars dernier, au moins 158 000 personnes sont en situation de déplacement dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo suite aux affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Goma, Denise Lukesso, Radio Kapi.
Par ailleurs, la présence des FDLR sur le sol congolais susceptible de s'attaquer au Rwanda depuis la RDC pour justifier l'incursion de l'armée rwandaise en RDC est un prétexte fallacieux. C'est la déclaration de l'ancien vice-ministre des Affaires étrangères du gouvernement Tshibala, Emmanuel Ilunga, qui est en même temps secrétaire général du parti Action Républicaine pour le Progrès, ARP, s'est ainsi exprimé hier à Kinshasa devant la presse face aux multiples incursions du Rwanda en RDC au travers du mouvement terroriste M23. Emmanuel Ilunga invite plutôt le chef de l'État à opter pour une mobilisation tous azimuts du peuple congolais, particulièrement les jeunes, en soutien au FARDC pour y mettre fin. Il dit ne pas partager la décision du président Félix-Antoine Tshisekedi d'autoriser par sa seule signature l'entrée sur le sol congolais d'une autre force étrangère, en l'occurrence la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, alors que d'autres forces telles que la MONUSCO y sont déjà. Emmanuel Ilunga Kasongo, secrétaire général du parti ARP, dans ses propos recueillis par Billy Van Lutumba.
Personnellement, je suis très réservé parce que nous avons déjà la MONUSCO dans ce pays, plus de 20 ans, et ils sont dans l'Est de la RDC. Les armées extérieures ne seront pas autant mobilisées, je dirais, patriotiquement, que les Congolais eux-mêmes. Je reste convaincu que dans ces moments difficiles, il est important de mobiliser d'abord les Congolais, de mobiliser le peuple, quitte à faire la circonscription, c'est-à-dire enrôler les jeunes pour qu'ils défendent notre pays, de plusieurs manières. Donc, appeler les armées extérieures qui ne connaissent pas nos territoires, qui ne connaissent pas nos valeurs, ça va être très compliqué, d'abord à les intégrer, et puis à les faire partir. Qui va payer la facture? Donc il y a toutes ces questions qu'il faut analyser. Et je pense que pour protéger les chefs de l'État, Il faut soumettre cette question à l'Assemblée nationale. Parce que quand on fait entrer une armée extérieure dans son pays, il faut partager les responsabilités. Les responsabilités ne doivent pas incomber à la signature d'une seule personne.
Entre-temps, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation constitue une dernière chance pour les combattants armés de déposer leurs armes. C'est la coordonnatrice provinciale de ce programme, nouvellement nommée au Sud-Kivu, qui l'a dit à Radio Okapi hier. Grâce Ngabo invite aussi la population du Sud-Kivu à s'unir derrière les efforts de paix des autorités du pays en bannissant les messages de haine et les actes xénophobes. La coordonnatrice provinciale du programme DDRCS au Sud-Kivu s'exprime au micro de Cynthia Bachizi.
C'est aussi une fois de plus pour moi une occasion de lancer un appel à toute la population, de nous unir tous comme un seul homme autour de l'objectif de la poursuite de la paix, gage et clé de notre développement, en bannissant toutes les formes de haine et de xénophobie, et là j'insiste, en sensibilisant chacun dans la mesure de ses moyens sur le bien fondé de ces programmes. À tous ceux qui détiennent encore les armes, mes frères et sœurs, je vous demande de les rendre et à tous ceux qui sont encore dans des groupes armés de revenir sur la voie de la raison en acceptant vraiment la main tendue du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car c'est une dernière chance pour eux. Et alors, une dernière chance et ceux qui ne seront pas rendus au degré, ils les seront par la force.
Justice. Vital Kamerhe a été acquitté par la cour d'appel de Kinshasa Gombe hier. C'est l'un de ses avocats qui confirme l'information. Le président de l'UNC a été renvoyé de fin des poursuites, donc blanchi dans l'affaire du détournement présumé des fonds alloués au programme d'urgence de 100 jours du président de la République. L'audience qui était prévue pour ce vendredi s'est transformée en une communication de l'arrêt de la cour aux parties au procès sans extrait de rôle. On écoute Maître Pouloussieka Hugues qui confirme cet acquittement au micro de Jeff Ngoy.
Je confirme que notre client, M. Kamerhe, a été acquitté par la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Donc les infractions de détournement et de corruption mises à sa charge ont été déclarées non établies en fait comme en droit par la dite cour. Donc voilà, je confirme l'information.
Radio Okapi a tenté en vain de joindre les avocats de la partie civile, mais le greffe pénal de la cour d'appel de la Gombe a également confirmé cet acquittement après quelques tâtonnements. Après son village natal Onalua, rébaptisé Lumumbaville dans le Sankuru, la relique de Patrice Emery Lumumba arrive à Kisangani ce vendredi, puis ça sera Lubumbashi et Chilatembo où Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961 avec deux de ses compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito. La dépouille sera ensuite ramenée à Kinshasa. Trois jours de deuil national seront organisés, puis viendra l'inhumation au mausolée construit à la place de l'échangeur à Limété. Mais que pensent les Congolais de cet événement? À Lubumbashi, Jean Gandoua recueille les avis des Louchois.
Ça nous fait plaisir et lorsque nous l'avons vu retourner au pays. Lumumba, c'était une icône de toute l'Afrique. Nous sommes très contents qu'il soit enterré au pays.
Nous sommes satisfaits de voir notre héros venir ici parce que nous étions vraiment déçus par le comportement de la Belgique. Comme les restes sont rentrés là, nous sommes satisfaits.
Qu'est-ce qui prouve que réellement c'est ça dans... Est-ce que réellement ça a été vérifié?
Ce que le gouvernement a organisé pour revenir là-dedans de Lumumba ici au Congo, c'est très capital. On est content.
Moi, je ne suis pas content parce que c'est quelque chose qui devait se faire depuis longtemps. Mais garder quelqu'un plus de 60 ans, ça ne m'enchante pas du tout. C'est ce qui me dépasse, moi. Lumumba s'est battu pour que nous ayons l'indépendance. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est l'initiative de ce grand homme nationaliste. Si nous pouvons avoir quelqu'un aussi fort avec des initiatives et des idées comme lui, ça serait bien.
Dans le même cadre, dans la province de la Tshopo, l'université de Kisangani rend hommage au premier ministre du Congo indépendant hier à la veille de l'arrivée de sa relique à Kisangani. L'UNIKIS, à travers la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, a organisé une séance académique pour démontrer à la face du monde le rôle que Patrice Emery Lumumba a joué pour l'émancipation du Congo. Selon le recteur de l'UNIKIS, le professeur Jean-Faustin Bongilo, par différents exposés, son institution vient de démontrer l'intimité entre ce leader héros national et la ville de Kisangani. C'est un reportage de Jacques Moukonkole.
Au cours de cette séance, les orateurs ont planché notamment sur la vie et l'œuvre de Patrice Emery Lumumba, la leçon à tirer de son martyre, ainsi que le lien existant entre lui et la ville de Kisangani. Pour le professeur Jean-Pierre Lifoli, l'occasion est bien indiquée pour se souvenir de l'héritage de Lumumba, notamment la lutte pour l'indépendance du Congo.
C'est à Kisangani où Lumumba a été connu comme acteur politique, notamment à travers les congrès qu'il a organisés de tous les nationalistes, qui a débouché à des émeutes, qu'on appelle les émeutes des Stanleyville en octobre 1959, un congrès qui a précipité même la visite du roi au Congo et un congrès qui a été à la base de l'organisation de la table ronde politique en janvier 1960.
Le retour de la dépouille de Lumumba est une victoire pour lui-même et pour tous les Congos, déclare le professeur Casimir Ngumbi. Selon lui, son nationalisme doit inspirer les Congolais à vivre en harmonie les uns avec les autres.
Cet unitarisme suppose donc que l'on peut devenir grand, sans nécessairement l'être là où on est né. On peut devenir grand si on est capable de rassembler. Vous voyez, nous avons des élites depuis 1960 qui ne sont leaders qu'au niveau de leur petite contrée, secteur et difficilement dans le territoire et encore plus difficilement au niveau de nos provinces.
Hormis toutes ces manifestations, d'aucuns souhaitent que tous les sites portant le nom du héros national soient réhabilités par le gouvernement pour garder sa mémoire toujours fraîche dans l'esprit des Boyomé. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Comme on vient de l'entendre, Patrice Emery Lumumba avait commencé sa carrière politique dans la ville de Kisangani. Son parti politique, le MNCL, avait entrepris une campagne de sensibilisation de la population dans la perspective des élections générales devant aboutir au choix des futurs dirigeants du pays. Le secrétaire provincial de son parti dans la province orientale est encore vivant. Âgé aujourd'hui de 83 ans, Célestin Kangakolo garde encore de lui des très bons souvenirs. Cependant, il regrette que les gouvernants ne soient pas en mesure de redonner du sourire à la population. Célestin Kangakolo est au micro de Jacques Mkonkolé.
J'ai commencé à travailler à l'MNC Lumumba comme un propagandiste. Il nous a envoyés souvent à l'intérieur. Il a payé les voitures pour nous donner les propagandistes. On a passé partout dans l'intérieur de la province orientale pour expliquer à la population congolaise qu'est-ce que l'indépendance.
Vous qui l'avez côtoyé, qui avez travaillé avec lui, comment vous l'avez trouvé?
Bon, bien entendu, il était très gentil. L'indépendance du Congo doit être totale pour les Congolais.
Que pouvez-vous dire aujourd'hui de l'indépendance que nous avons acquise?
Bon, bien entendu, aujourd'hui, notre indépendance, ça ne répond pas comme ça a été proposé par lui-même et le monde. Puisque nous voyons que le gouvernement nationaliste, si ça existe ou ça n'existe pas, nous ne connaissons pas, puisque toutes choses coûtent cher. Au lieu de favoriser la population qui reste à l'aise, nos autorités d'aujourd'hui dirigent le pays. En tout cas, ce n'est pas moi-même qui parle, mais presque c'est tout le monde regrette. La vie est très chère, on ne sait pas comment vivre.
Et nous poursuivons avec notre série de reportages sur la zone économique spéciale de Maluku à Kinshasa. Cette fois-ci, parlons des défis majeurs auxquels fait face l'agence des zones économiques spéciales AZES. Parmi ces défis, Ogi Bolanda, directeur général de cette agence, parle entre autres de la sécurité qu'il faut renforcer. Il a dit le week-end dernier à Paul Matendo, à l'occasion de la visite d'inspection des travaux de développement de ce site, effectuée par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku.
Bon, les défis auxquels nous faisons face, c'est que les problèmes de mobilisation des chantiers, il faut amener le matériel de très loin pour amener ici à Maluku. Les entreprises, heureusement que ce sont des entreprises qui s'y connaissent, ils vont le faire très bien parce qu'ils ont été recrutés sur base de ça aussi. Un autre défi que nous avons, c'est que au niveau de la zone, les reliefs n'est pas plat, donc ça va demander beaucoup de travaux de terrassement. Et les entreprises vont aussi les faire. C'est comme ça qu'ils ont pratiquement une année pour finaliser avec les travaux de déplacement de la zone économique spéciale. Un autre défi qu'on peut aussi présenter, c'est qu'il faut ramener vite la sécurité dans la zone économique spéciale. Il faut renforcer en fait, parce qu'on n'a pas vraiment une grande équipe des gens. Maintenant que les entreprises s'installent, il faut que la sécurité de la zone soit de plus en plus assurée. C'est comme ça que nous allons prendre langue avec les autorités et les autorités compétentes pour qu'une équipe de la police soit détachée ici.
Actualité internationale.
L'Afrique entre défis et opportunités, c'est le thème phare de la deuxième édition du Forum Afrique du CIAN, entendez, le Conseil français des investisseurs en Afrique, forum qui s'est tenu jeudi à Paris. Invité d'honneur de cette édition, le président nigérien Mohamed Bazoum, connecté à distance depuis Niamey, et il a à cette occasion lancé un appel aux investisseurs étrangers, notamment dans le secteur de l'agriculture, et dans un contexte de guerre en Ukraine, les pays africains veulent tirer ainsi profit de leur potentiel des terres cultivables non exploitées.
L'invité.
Dans la stratégie de sortie de la MONUSCO au Tanganyika, les agences du système des Nations Unies et les humanitaires mettent en place des stratégies de développement de la province. À ce sujet, nous recevons le responsable du bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, qui était en mission de service à Kalemi et qui explique de quelle manière son institution compte collaborer avec les ONG locales pour le développement de la province du Tanganyika. Joseph Inganji s'entretient avec Fulbert Balolagué.
Joseph Inganji, bonjour. Quelle est la situation humanitaire au Tanganyika?
La situation humanitaire dans la province est très récurrente. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin d'assistance. Il faut noter qu'il y a quelques sites de déplacés, d'accord, présents ici qui, avec les populations qui ont besoin d'assistance. Mais nous avons aussi beaucoup de choses qu'il faut faire par rapport des contextes qui sont entrechangés. Par exemple, avec le départ de la MONUSCO. C'est pour voir comment nous allons travailler sans la MONUSCO. Mais il faut noter que c'est bonne chose le MONUSCO quitte parce que ça a une démonstration que la sécurité dans la province soit améliorée.
Et dans ce cas, quelle est la nouvelle stratégie des humanitaires avec le départ de la MONUSCO?
Notre nouvelle stratégie ici sera une approche de nexus. Nexus, c'est-à-dire nous allons travailler, les humanitaires, les développements, les gouvernements, nous tous, nous allons travailler ensemble. On va se mettre autour de table pour avoir une analyse commune, pour voir c'est quoi il faut faire ensemble. Et puis chacun de nous va contribuer par rapport à son mandat.
Il y a des demandes d'accompagner les structures locales pour le développement de la province. Qu'est-ce qui est prévu à ce sujet?
Je pense que localisation est très importante. Ce n'est pas aussi négociable. Parce que si on regarde le sommet mondial qui était fait en 2015 à Istanbul, nous avions décidé que même 25% des financements doivent aller aux ONG locales. C'est-à-dire qu'il faut promouvoir la capacité des ONG nationales. Parce que nous, les ONG internationales, nous, Nations Unies, nous allons quitter un moment, mais les ONG nationales vont rester. Pour ce qui concerne l'action humanitaire, c'est les ONG nationales qui sera à mesure de répondre aux problèmes résiduels humanitaires lorsque nous allons quitter, ensemble avec les gouvernements.
Des responsables des ONG locales et nationales demandent à être accompagnés pour être viables. Comment allez-vous vous en prendre?
Comme vous connaissez, Rome n'a pas construit dans un jour, ça a pris 100 ans. Les ONG nationales ont besoin de capacités. Et c'est une chose, nous sommes en train de travailler pour voir comment on peut les aider, être en mesure de prendre le lead role avec le gouvernement pour répondre aux besoins humanitaires. Et ça, nous sommes en train d'organiser une rencontre des forums des ONG où on va voir ensemble, parce que nous voulons qu'on discute avec eux pour mieux comprendre comment on peut les aider pour prendre le leadership des réponses aux problèmes humanitaires.
Vous avez dit que la situation humanitaire, il faut une implication des gouvernements. En quoi c'est important cette implication?
Ça c'est très important dans l'action humanitaire pays et même développement. Nous, on est ici pour aider les gouvernements, pas faire compétition avec les gouvernements. C'est le gouvernement qui est dans la lead et nous on est là pour les appuyer. C'est pour cela qu'ils font un travail ensemble. C'est pour cela qu'il faut discuter, il faut mettre les stratégies ensemble, comment nous allons réagir à un certain nombre de problèmes importants.
Alors, vous êtes des humanitaires et vous travaillez avec les gouvernements. Qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement?
Ce que nous attendons du gouvernement, c'est le leadership. Nous dire voilà ce que nous allons faire, le leadership pour nous montrer les stratégies du gouvernement à qui nous, les humanitaires, et autres aussi, le développement, va aussi appuyer. Parce que c'est le gouvernement qui amène les stratégies et nous, on va appuyer ce gouvernement pour réaliser leurs stratégies.
Joseph Inganji, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité, le responsable du bureau de OCHA, s'entretenait avec Fulbert Balolagué. C'est la fin de ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. À la mise en onde, Alain Goy, merci de rester branché en compagnie de Jean-Marc Matouaki Mofelele.